Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Alain Rey. La rencontre de ce soir a pour objectif avant tout de marquer la sortie de la troisième version numérique du Grand Robert. Bien sûr, nous en parlerons, mais c'est d'abord l'occasion de rencontrer et de faire plus ample connaissance avec Alain Rey, qui est à la fois familier, puisque tout le monde a chez soi plusieurs, certainement, éditions successives et du Petit Robert et du Grand Robert et d'autres dictionnaires encore auxquels il a participé ou qu'il a entièrement construit, mais qui est en même temps que familier, particulièrement monumental, dirons-nous, à la fois par l'ampleur de son travail, de son œuvre, et aussi par la profondeur et ce qu'on a pu appeler une révolution tranquille. Et je crois que, comme vous le voyez apparaître ici, il incarne assez bien cette idée de révolution tranquille, d'une modernisation jamais terminée, la preuve aujourd'hui avec cette parution, et en même temps entamée depuis les débuts d'une aventure qui remonte finalement à plus de 60 ans. Alors, on ne peut qu'être impressionné par la forme et l'enthousiasme intact d'Alain Rey aujourd'hui, qui est donc à Bordeaux avec nous ce soir, à la librairie Mola. Et donc, on a envie de lui demander peut-être avant tout dans quelle catégorie de personnes, de lecteurs, de dictionnaires se range-t-il ou s'est-il rangé ? À mon avis, il y a deux catégories. Il y a les gens qui consultent le dictionnaire comme un outil et il y a les gens qui s'en régalent, qui papillonnent. Et donc, il y a aussi ceux qui chassent les papillons, qui les collectionnent peut-être, ou qui nous montrent leurs belles couleurs de manière toujours aussi émerveillée, finalement, aussi bien en 1950 qu'en 2013. Alors, quelle sorte de chasseur de papillons et de mots êtes-vous, Monsieur Alain Rey ?
Ah, c'est difficile de répondre. La métaphore du papillon est inquiétante parce qu'on sait très bien que le papillon ne vit pas longtemps, d'abord, et qu'au départ, c'est une chenille, ce qui est beaucoup moins sympathique, mais c'est le même objet. Donc, nous sommes tous chenilles et papillons. Il s'agit de réaliser, disons, le déploiement d'ailes le moins défavorable possible. Et ceci ne s'obtient pas, ça peut s'obtenir par le génie, mais ça n'est pas mon cas. Moi, ça s'est obtenu par le travail. C'est-à-dire que à force de travailler dans ce domaine du dictionnaire, j'en ai progressivement vu les enjeux qui étaient beaucoup plus importants que ce que je ne pensais au début. Et ces enjeux sont finalement aussi importants que ceux qui sont le fait des créateurs, des poètes, des romanciers, etc. Parce que le dictionnaire n'est, comme vous venez de l'indiquer, pas seulement un outil. Le grand problème, c'est que le dictionnaire peut être un objet poétique, peut être un objet de rêve, peut être un objet révélateur de la société, ce qu'il doit être d'ailleurs, mais qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il doit avoir cette humilité, et donc le lexicographe aussi, qui est de servir à quelque chose pour un certain nombre d'utilisateurs. Et ça va être le thème que je vais un peu développer à propos de la nouvelle édition numérique du Grand Robert, qui est vraiment une espèce de révolution tranquille, sans aucun doute, pour l'utilisateur, même si ça n'est pas une révolution pour les concepteurs. Et un jour, ça le deviendra d'ailleurs, parce que l'ère du numérique va apporter, avec des défauts, des dangers, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, des avantages considérables, c'est-à-dire l'aide du cerveau humain aidé par la machine, ce qui permet un certain nombre de choses, avec ce danger que si la machine se substitue au cerveau humain, toute une partie des capacités humaines vont disparaître. Et pour le moment, la machine qui est souveraine en matière de mémoire et en matière de rapidité ne l'est pas du tout en matière de subtilité et encore moins en matière d'imaginaire ou de sentiment, où elle est complètement dépourvue de tous ces éléments-là. Donc, si la machine n'est pas vécue de l'intérieur par une sorte d'inspiration créatrice, et ceci est vrai pour tous les domaines qui peuvent passer par l'informatique, ça serait un recul considérable. Vous savez que le grand problème dans l'évolution de l'humanité, c'est que la technique va toujours plus vite que les éléments intellectuels purs, que la morale, que l'éthique et que l'esthétique, qui, elle, n'avance pas du tout à la même vitesse. La technique va beaucoup plus vite que les possibilités de l'utiliser. Et ça, c'est un danger permanent. Mais le problème est de savoir utiliser les éléments positifs et de brider les éléments dangereux. J'ai fait récemment un travail sur l'évolution actuelle, non seulement des dictionnaires, mais des ouvrages de référence en général, grâce à l'informatique, en disant qu'il fallait surtout se garder de sombrer dans l'utilitarisme pur, ce qui est le risque que ne couraient pas ceux qui faisaient des dictionnaires ou des manuels dans un esprit de communication avec un certain public pour faire passer des connaissances, pour faire passer des sentiments, pour faire passer de l'imaginaire en même temps que du réel. Et tout ceci, évidemment, demande une certaine adaptation à la technique, une certaine humilité aussi par rapport à elle. Et j'ai assisté en 20 ou 30 ans. J'ai eu la chance d'ailleurs d'assister au début de l'informatique dans l'édition en France, après avoir fait un long séjour aux États-Unis où l'informatique était déjà présente et où on voyait déjà qu'est-ce qu'on allait pouvoir gagner en efficacité, en capacité d'utilisation, en facilité, et qu'on risquait de perdre en matière de fantaisie, de feuilletage créatif, de ce que les anglo-saxons appellent serendipité et qui est maintenant utilisé en français, la sérendipité, pour ceux qui l'ignorent, c'est la capacité de découvrir ce qu'on ne cherchait pas. Or, avec l'informatique, on découvre ce qu'on cherche et il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir découvrir quoi que ce soit. Alors que le feuilletage libre d'un ouvrage, avec en particulier cette anomalie assez stimulante qu'est l'ordre alphabétique, qui n'a aucune sensibilité particulière et qui n'a pas de rationalité, puisque c'est un classement arbitraire, mais il crée des rencontres, il crée des surprises et il crée des facilités de promenade. C'est pour ça que, depuis que je fais des dictionnaires, je m'attache à faire en sorte que ça ne soit pas seulement des outils, mais que ce soit dans une certaine manière, et tout en restant modeste, sinon des œuvres d'art, du moins des œuvres avec un caractère artistique ou littéraire. L'utilitarisme, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut l'aménager en laissant à l'utilisateur la possibilité de rêver. Et s'il n'y a pas un peu de rêve, un peu d'imaginaire et un peu d'imprévisible dans la fréquentation d'un grand dictionnaire, à mon avis, c'est un outil commode, mais sans plus. Et la façon de procéder, elle n'est pas très compliquée, c'est de se rendre compte qu'une langue n'est rien d'autre que ses capacités d'utilisation et que les utilisations les plus intéressantes, les plus riches, inépuisables en vérité, ce sont les chefs-d'œuvre littéraires. Et quand on sait qu'un dictionnaire ne vit que par son alimentation intime, qui est la façon dont on s'est servi de la langue française depuis qu'elle s'est à peu près fixée d'une manière que nous pouvons nous aborder sans une initiation trop pénible, c'est un peu pour ça qu'on élimine avec beaucoup de regret l'ancien français, qui est un lieu de réussite imaginaire, poétique, collective considérable, mais qui est pour nous une langue étrangère. Donc, quand j'ai conçu le dictionnaire culturel en langue française, j'ai voulu justement récupérer ces éléments qui n'ont pas été exprimés en français moderne, que ce soit l'ancien français, que ce soit les langues étrangères, notamment les langues proches de nous, des autres pays d'Europe, parce que je faisais cette remarque assez élémentaire, qui est que je ne voyais pas pourquoi les grands dictionnaires français se bornaient à une littérature pensée et réalisée en langue française, alors que le lecteur français, il n'est pas étranger à Shakespeare, il n'est pas étranger à Cervantes, il n'est pas étranger aux grands romanciers américains contemporains qui lit en traduction. C'est pour ça que j'ai essayé, dans le dictionnaire culturel, de faire de la langue française une sorte de plateforme pour la fusée qui s'en va vers le langage en général, illustré par éventuellement toutes les langues du monde, à condition que les contenus soient humainement importants et significatifs. Donc c'est un peu cette recherche qui fait qu'il y a presque des anomalies par rapport au dictionnaire classique. Bon, un dictionnaire comme le Littré est admirable, mais il ne comprend que des citations littéraires conçues et exprimées en langue française. Et en plus, pour des raisons personnelles que je respecte infiniment, mais qui sont un peu dommages pour le lecteur d'aujourd'hui, Littré s'est arrêté au premier texte de Victor Hugo ou à l'œuvre de Chateaubriand, il n'est pas allé plus loin. Donc nous étions avec un trou culturel considérable qui était le français du 19e siècle, et Dieu sait qu'il y a des chefs-d'œuvre au 19e siècle, sans parler de la première moitié du 20e siècle. Et c'est ça qui m'a fait plonger dans la marmite de la lexicographie, c'est quand on m'a montré le premier fascicule du dictionnaire que préparait Paul Robert à Alger à l'époque, qui s'appelait Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Je me demandais ce que ça pouvait bien être. Et ce que j'ai retenu, ça n'est pas le système analogique. J'avais d'ailleurs tort, parce que c'est très très important et que ça rejoint les possibilités nouvelles de l'informatique sous la forme de l'hypertexte. J'y viendrai tout à l'heure, ou j'y viendrai pas d'ailleurs, parce que je prévois de dire des choses et puis j'ai pas le temps de les dire parce que j'ai dit autre chose entre temps. Vous voyez que j'improvise. Ça veut dire cela que je me suis dit, mais puisqu'il y a des grands écrivains français qui ont traduit des grands textes étrangers, pourquoi diable ne pas s'en servir ? Et en parcourant comme ça des éléments de la littérature, je me suis aperçu d'abord qu'il y avait des grands écrivains qui s'étaient occasionnellement exprimés en français, alors pourquoi ne pas les citer ? Et ils sont assez nombreux, et aujourd'hui il y a énormément de gens dont la langue maternelle n'est pas le français et qui font vibrer la langue française par la littérature dans le monde entier. C'est une des grandes chances de la langue française, qui par ailleurs subit un certain nombre d'avanies, que d'avoir comme serviteur des gens qui ont grandi dans une autre langue et qui ont choisi le français pour s'exprimer. C'est pas seulement des Africains ou des Maghrébins ou des gens des Caraïbes qui sont très nombreux et qu'on cite volontiers, mais ça peut être par exemple le Rigoncourt d'il y a quelques années qui était afghan et qui était installé en France depuis un temps assez court d'ailleurs et qui avait puisé une partie de son assurance en langue française, m'a-t-il affirmé, dans le Petit Robert. Vous pensez si j'étais fier ? Je me suis dit, j'aurais dû avoir un morceau de Goncourt, parce que c'était lui qui avait aidé, le dictionnaire avait aidé cette personne qui était un écrivain dans l'âme, mais qui évidemment avait des difficultés à s'exprimer dans une langue qu'il maîtrisait déjà bien, mais il se demandait si littérairement c'était suffisant. Or, quand on sait, par exemple, que les œuvres d'Edgar Poe, qui sont une des grandes œuvres de la littérature américaine, ont eu la chance d'être traduites par Charles Baudelaire, pourquoi se priver des textes de Poe traduits par Baudelaire, alors que d'autres poèmes de Poe aussi ont été traduits aussi par Mallarmé, et tout ceci figure dans le Grand Robert. Et c'est une nouveauté un peu cachée, parce qu'on n'a pas fait de la publicité autour de ça, mais qui représente symboliquement beaucoup plus que ce détail-là, c'est-à-dire que il faut donner à la langue cette aptitude à se hisser jusqu'à la langue universelle. Je me souviens d'une rencontre très fructueuse avec Georges Semprún, le grand écrivain franco-espagnol qui est disparu récemment, et dans laquelle il expliquait que, en fait, il avait eu accès à Proust dans une traduction espagnole qui était excellente, et que quand il avait lu après Proust en français, il maîtrisait le français absolument parfaitement. Il était trilingue, français, allemand, espagnol. Je ne sais pas s'il parlait le catalan, mais il a vécu à Barcelone assez longtemps. Bon, toujours est-il qu'il expliquait que le fait d'avoir eu accès à l'œuvre de Proust, non pas en langue française, mais dans une traduction qui par ailleurs était excellente, lui avait donné le sentiment que Proust écrivait au-delà de la langue française. C'est-à-dire que la qualité profonde de son œuvre était entièrement dans cette aptitude à représenter une sensibilité humaine d'une certaine époque qui était valable pratiquement pour toute l'Europe et pour toute une partie du monde. Et que ce soit exprimé dans une langue ou l'autre était finalement presque secondaire. Je dis presque secondaire parce qu'il est évident que Proust est un grand manipulateur de la langue française. Mais on peut très bien estimer que les romans de Thomas Mann ou d'autres romans qui sont comparables en importance à ceux de Proust méritent d'être cités dans un dictionnaire français comme témoignage d'une pensée qui peut très bien s'adapter à la langue française, parce que la traduction, ça existe, et qu'il y a de grands traducteurs. Bon, par exemple, la ballade de l'ancien marin de Longfellow, qui est un des poèmes les plus connus en langue anglaise, et qui est appris en Angleterre et aux États-Unis par tous les adolescents, elle a été traduite en français par Alfred Jarry, l'auteur du Burroi, ce qu'on ignore en général. Et ça mérite d'être répercuté, parce que c'est une ouverture formidable. Le grand poème visionnaire de Milton, qui s'appelle Le Paradis perdu, et que j'ai beaucoup refréquenté récemment à cause de mon récent dictionnaire amoureux du diable, dont je vais quand même me permettre de dire un mot, eh bien, il a été traduit par un jeune homme particulièrement doué en langue française, et qui vivait à Londres au tout début du 19e siècle, et qui s'appelait Alphonse de Chateaubriand. Et voilà, donc je trouve que avec ses fautes d'anglais, car Chateaubriand a fait des fautes et des contresens, qu'on a bien relevé par la suite, ce texte est magnifique, parce qu'il donne l'équivalent en langue française, et Dieu sait que la prose de Chateaubriand est admirable, de la pensée profonde, et du dynamisme intérieur de ce chef-d'œuvre qu'est Paradise Lost de John Milton. Et ça, ce sont des choses qui sont au-delà du français, mais qui alimentent le français, qui l'enrichissent perpétuellement. Et c'est un peu la même chose qu'on va retrouver dans ce que j'aime bien appeler le voyage des mots, c'est-à-dire le fait que, d'une part, la langue française a prêté ses mots à énormément de langues étrangères, et celle qui a été le plus nourrie de langue française, on l'oublie tout le temps, c'est la langue anglaise. Il n'y aura jamais autant d'anglicisme en français. Il y en a déjà un peu beaucoup, mais un peu beaucoup trop. Mais il y a beaucoup moins d'anglicisme en langue française qu'il n'y a de gallicisme et de latinisme passés par le français en langue anglaise, pour des raisons historiques que je ne vais pas développer parce que c'est très très complexe. En fait, ça n'est pas quand les ducs et les Normands, à la suite de Guillaume, qui a été dit le conquérant à la suite, ont installé la langue française en Angleterre. On a parlé français en Angleterre pendant 3 siècles à peu près, dans les couches supérieures de la société. Et quand le français a été éliminé par l'anglo-saxon, l'anglo-saxon s'est trouvé en perte d'expression, parce que tout ce qui était gouvernement, économie, pensée intellectuelle, scientifique, technique, tous les aspects qui n'étaient pas du quotidien, et tout ce qui était le raffinement de la vie courante aussi, était exprimé par les Normands dans cette langue française qu'ils avaient acquis en Normandie, en s'y installant du temps de Rollin, quelques années auparavant. Et donc, la langue française a été le recours de la langue anglaise pour prendre la même capacité expressive et la même richesse culturelle qu'avaient les langues voisines, notamment le français. Il y a un grand mouvement à partir de la Renaissance qui part d'Italie, qui touche l'Espagne, qui touche la France, qui remonte vers l'Angleterre et qui va vers l'Est, en Allemagne, vers la Pologne, etc., qui est reflété d'ailleurs par l'histoire de la lexicographie. Il y a un grand lexicographe italien de la fin du XVe siècle, dont tout le monde connaît le nom, mais personne ne connaît l'œuvre, qui s'appelait Giuseppe Calepino. Calepino, c'est le calepin. C'est le mot qui a donné le mot calepin. Mais c'était en fait des grands in-folios dans lesquels, au départ, il y avait le latin et l'italien, et ensuite, progressivement, toutes les langues d'Europe, dans les éditions successives. J'ai la chance d'en avoir 2 exemplaires, un publié à Venise au début du XVIe siècle, où il y a déjà 8 langues, et l'un publié à Paris au début du XVIIe siècle, où il y a 16 langues. y compris le polonais, y compris des langues un peu éloignées du départ de la Renaissance. Donc cela montre que quand on veut décrire le lexique d'une langue, le point de départ c'était la langue italienne, mais comme la langue italienne était à ce moment-là le moteur d'une espèce de renaissance intellectuelle qui va toucher toute l'Europe, et ensuite qui va partir à travers les océans, dans d'autres lieux, cette façon d'essaimer la pensée passe par un certain nombre de langues qui se valent toutes, mais qui ne sont pas toutes dans la même situation sociale et politique. Donc, le français a la chance aujourd'hui de faire partie des langues les plus importantes du monde, non pas par le nombre de locuteurs. La langue numéro un en matière de nombre de locuteurs, c'est la forme de chinois qu'on appelle, nous, le mandarin, et que les Chinois appellent Putonghua, qui veut dire la langue nationale. C'est-à-dire qu'on parle autre chose à Canton, on parle autre chose dans notre région de la Chine, mais cette langue est enseignée à l'école par tout le monde. Et la dernière fois que j'étais à Pékin pour une réunion sur les dictionnaires, quand il a été question des dictionnaires pour les enfants, ils ont un petit dictionnaire qui est à peu près de la taille du Robert Illustré et qui enseigne le chinois mandarin à tous les Chinois qui n'ont pas cette langue maternelle, qui est celle de Pékin et de sa région, mais qui ont d'autres langues, assez éloignées d'ailleurs les unes des autres, et unies uniquement par les caractères d'écriture, eh bien, cette multiplicité humaine monstrueuse pour nous m'a sauté à la figure, parce que quand on a parlé de tirage européen, on disait tel dictionnaire a fait jusqu'à 1 million d'exemplaires par an, ça paraissait absolument merveilleux, et eux c'était quelque chose comme 500 ou 600 millions chaque année, quelque chose d'absolument inimaginable. Et ceci montre que quand une langue prend en charge une population, évidemment, ça peut porter sur des millions et des millions de personnes, mais ça n'est pas ça qui fait la force totale d'une langue. Le chinois est très important pour des tas de raisons. Son ancienneté, le fait qu'il a été le support de chefs-d'œuvre littéraires et intellectuels énormes. Très peu sont passés en Occident, mais quand même, on sait qu'il y a eu Confucius, on connaît un certain nombre de choses de référence. L'écriture a passé au Japon ensuite, donc c'est tout un pan culturel considérable avec un nombre de locuteurs absolument invraisemblable. C'est plus de ça se compte par 1,5 milliard maintenant. Bon, à côté de ça, le français est une petite langue, je le veux bien, mais ça n'est pas le quantitatif pur qui définit la force des langues. Ce qui la définit, c'est au fond leur puissance de pénétration dans la pensée universelle, dans l'humanisme, je dirais. Et là, le français fait vraiment partie des 5 ou 6 langues majeures de l'humanité, dans le temps, dans la diffusion par l'espace, dans la répercussion intellectuelle que représente la littérature ou la pensée supérieure. Si on additionne, et le Robert fait son possible pour être représentatif dans ce domaine, les grands textes, on s'aperçoit qu'il y a certains domaines, ça va des mathématiques à l'anthropologie, on pense à Lévi-Strauss, mais il n'est pas le seul, à la biologie avec des très grands biologistes, connus à partir de Jean Rostand avec Jacob ensuite, et dans tous les domaines, on a une expression française et qui souvent a une qualité vraiment littéraire. Claude Bernard, grand réformateur de la médecine, écrit magnifiquement. C'est une écriture qui est comparable à celle des grands écrivains de son époque, au milieu du 19e siècle. Bon, je peux prendre des milliers et des milliers d'exemples. En Europe, je ne vois que 2 littératures qui aient ce flux continu avec des chefs-d'œuvre tous les siècles depuis un millier d'années à peu près, c'est la littérature anglaise et la littérature en anglais, je devrais dire, et la littérature en français, qui d'abord était surtout une littérature française, mais pas seulement. Je rappelle toujours que quand Jean-Jacques Rousseau écrit dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il signe Rousseau, citoyen de Genève. Genève n'était pas en France, il ne l'est toujours pas. J'y étais tout récemment, les Suisses y tiennent beaucoup, et la qualité du français qui a été exaltée par les écrivains genevois, il n'y a pas que Rousseau, plus tard il y a eu Rodolphe Topfer, qui n'est pas assez connu en France, mais qui est un des ancêtres de la bande dessinée, entre parenthèses, Eh bien, tout ceci montre que la diffusion du français, d'abord en Europe, d'abord en France même, parce que on oublie trop souvent que le français est né en Île-de-France et que dans un pays comme la Guyenne, dans toute la moitié sud de la France, c'était d'autres langues qui se parlaient et le français a pris leur place. Donc le français a été à la fois le bourreau des langues voisines et aujourd'hui il est parfois la victime de la langue anglaise. Donc le bourreau qui est en même temps la victime, c'est un thème baudelairien qu'on connaît bien. Je suis la plaie et le couteau, écrivait Baudelaire. C'est un peu le drame des langues dans leur confrontation, parce que une langue ne peut se répandre qu'au détriment d'autres langues, soit en les éliminant purement et simplement, soit en les remplaçant pacifiquement et en les laissant vivre à côté d'elles. Mais le français fait donc partie de ce patrimoine humain universel, et je pense que c'est la fonction, une des fonctions que doit représenter un grand dictionnaire. Parce qu'un grand dictionnaire, c'est une ouverture, pas seulement sur le lexique, mais essentiellement sur le mode de pensée, le mode d'expression que permet une langue à une certaine époque, avec les modulations dans le temps, dans l'espace, dans la société, ce qui explique que moi je me sens absolument tenu de faire figurer des mots de la banlieue, même s'ils sont pas beaux, même s'ils sont insultants, même s'ils sont désagréables, de faire figurer des anglicismes qui ont cours partout en francophonie, même si je le déplore, mais ça doit représenter une sorte d'image qui n'est pas du tout photographique, qui n'est pas du tout cinématographique, parce que la réalité sera toujours infiniment plus complexe que ces représentations, mais j'aime faire la comparaison avec la cartographie. C'est exactement ça. Une bonne carte est une carte exacte, est une carte utile, mais c'est aussi un objet qui fait rêver. Personne n'a été indifférent au fur et à mesure de l'histoire des cartes du monde, au fur et à mesure qu'on découvrait des espaces inconnus, à la poésie de la carte. Et c'est un peu la même chose. Le dictionnaire, c'est une cartographie, c'est comme un guide dans un pays en partie inconnu et qui est en même temps très familier. Et c'est ça un des problèmes, un des mystères, je dirais, et un des pouvoirs d'une grande langue comme le français. C'est-à-dire que c'est une langue dont les richesses sont à peu près illimitées, et dont chacun d'entre nous, même en étant un bon connaisseur de la langue française et un bon manipulateur de la langue française, ne connaît qu'une partie. Et donc le dictionnaire doit assurer cette partie commune qui est connue par tous, la préciser, la développer, en montrer déjà les aptitudes expressives qui vont très au-delà de ce qu'on pense au départ, et en plus la compléter par tout ce qui nous est imparfaitement connu, ou connu simplement par l'oreille et pas par le cœur ou par l'esprit quand il s'agit de mots scientifiques ou techniques. Nous connaissons tous ce que c'est un atome, nous avons tous entendu parler du boson de Higgs, c'est impossible d'ouvrir une radio ou une télévision sans en entendre parler, or très peu d'entre nous savons vraiment ce que c'est qu'un atome, qui d'ailleurs a complètement changé dans l'esprit des grands scientifiques entre il y a 50 ans et aujourd'hui, et encore moins le boson de Higgs, dont seuls des physiciens professionnels et quelques mathématiciens pourraient vraiment parler savamment. Alors, évidemment, on est obligé maintenant, quand on fait un dictionnaire, de se faire l'écho de ces sons que nous entendons et dont nous ne connaissons pas très bien le sens, mais dont nous savons qu'ils ont un sens et dont nous savons que le sens est extrêmement important. Ça peut changer l'image de l'univers, et les vulgarisateurs nous le disent, mais ils ne nous expliquent pas comment. Donc le dictionnaire a des fonctions tellement multiples que c'est un travail jamais fini, d'abord, parce que tout bouge. Non seulement nous voyons bouger les mots, parce qu'il y a des mots nouveaux, je ne vais pas vous faire la liste, les médias sont enragés, à chaque fois ils me demandent, mais vous avez mis tel mot. Alors généralement, on trouve des mots à consonance grotesque, des mots un peu ridicules, ou alors des mots qui paraissent... Oui, voilà, ou la bombasse, par exemple, j'entends ça, tout ça, ou le bolos, qui est le crétin, bon, voilà. Alors, ça représente un millionième de l'information, et ça va représenter la moitié ou la quasi-totalité de l'information qui est transmise par les médias à l'occasion de la parution de la nouvelle édition d'un dictionnaire. C'est un petit peu frustrant, c'est un peu énervant, mais il faut aussi comprendre que il y a dans le vocabulaire, justement, une espèce de capacité d'étonnement auprès des utilisateurs. Et c'est ça que les médias veulent refléter. Il y a toujours une raison. Les réactions les plus médiocres sont généralement causées par un sentiment juste. De même que j'avais critiqué assez violemment dans un livre les puristes et les gens qui sont attachés au langage, mais tout en reconnaissant que leur façon d'être, leur façon de réagir était respectable, mais erronée à mon avis. C'est un peu à la manière, je comparais ça aux amoureux du 19e siècle qui avaient un médaillon avec une jolie dame représentée dessus et qui en faisaient la princesse lointaine, la dame de leurs rêves, alors que la réalité était forcément très différente, qu'un médaillon représente quelqu'un à une certaine époque, qu'il est modifié par l'intention du peintre ou du miniaturiste. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la langue. Quand on veut que la langue soit parfaite, on lui donne une image fictive. C'est respectable, c'est gentil, c'est positif d'une certaine manière, mais c'est tellement contraire à la réalité des choses qu'on risque de se ramasser de manière douloureuse en voyant que ce n'est pas les bonnes choses. Et puis, il y a beaucoup de confusion. Quand on critique l'état de la langue française actuelle, ma réponse est à peu près toujours la même, c'est-à-dire, vous ne critiquez pas la langue, vous croyez critiquer la langue, vous critiquez un usage de la langue ou une façon de se servir de la langue. Vous critiquez les locuteurs et les gens qui écrivent. Parce qu'une langue est un système tellement complexe, tellement riche et avec des potentialités tellement immenses qu'on ne peut pas demander aux gens de le maîtriser totalement. Et quand ils le maîtrisent mal, on ne retient que les déficits. Et on ne voit pas ce qui, dans leur discours, peut être évolutif, va donner quelque chose dans le futur, les côtés affectifs. Vous savez, l'analyse du discours, c'est quelque chose de très, très complexe, parce que nous mettons dans nos paroles plus que les mots que nous employons. Nous mettons des intentions, nous mettons des sentiments, nous mettons de l'imaginaire, et tout ça se traduit par la tonalité de la voix, par des quantités d'éléments qui sont très, très difficiles à analyser, dont certains nous viennent de la langue, et certains nous viennent de notre connaissance de la langue, de la façon de s'en servir, qui peut être très déficitaire. Et ça n'est pas même une critique que de dire « telle personne parle mal ou écrit mal ». C'est une façon de dire qu'il est handicapé relativement par rapport à ceux qui parlent mieux ou qui écrivent mieux. Donc en fait, on débouche sur un problème d'inégalité sociale, car les gens qui parlent et qui écrivent mal, il peut y avoir des raisons psychophysiologiques, mais ça, ça relève de la médecine et ça peut se soigner, mais à 95%, ce sont des questions sociales. C'est-à-dire qu'on hérite d'une certaine manière de se servir de la langue. Tout le monde hérite de la langue française, mais tout le monde n'hérite pas de la même maîtrise de la langue française. Quelqu'un qui vit dans une famille où les gens parlent bien, écrivent bien, lisent beaucoup, n'est pas du tout dans la même situation que quelqu'un qui est dans une famille, par exemple, où les gens ne sont pas allés longtemps à l'école, où il y a plusieurs langues qui s'entrechoquent les unes les autres avec une maîtrise imparfaite de chacune d'entre elles, ce qui est tout le problème des pays à forte immigration. Et ça, c'est vrai maintenant pour toutes les langues. C'est vrai pour l'allemand, c'est vrai pour l'italien, c'est vrai aux États-Unis. L'anglais prend des coups très, très bizarres. Et quand on se plaint de la supériorité mondiale de l'anglais, on oublie qu'à l'intérieur de cette langue, il se passe des choses très bizarres. Moi, j'ai des amis britanniques qui sont absolument désespérés parce que leurs enfants parlent, disent-ils, comme des Américains qui ne savent pas parler l'anglais.
Oui, il y a une sorte de globiche qui s'installe.
Il y a une sorte de globiche qui s'installe par appauvrissement. Alors, on va critiquer, par exemple, les jeunes des banlieues en disant qu'ils répètent toujours la même chose, ils ont un très pauvre vocabulaire. Ça n'est pas totalement vrai. Ils ont un vocabulaire appauvri par rapport au vocabulaire, bien sûr, de Rimbaud ou de Proust, mais ils ont un vocabulaire qui, par ailleurs, s'est enrichi d'apports qui sont souvent des emprunts, mais qui peuvent être des créations. Moi, je ne peux pas être négatif quand il y a un nouveau procédé pour fabriquer des mots nouveaux. Le Verlan a été une jolie aventure entre 1970 et 2000, et les gens qui y sont très hostiles, je les rassure tout de suite, le Verlan est en train de mourir. Donc, comme le Javanais avant lui, et comme le Louchébem, qui était quelque chose de très technique et très difficile à comprendre, c'était fait pour ça d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a aussi dans la langue tous ces secteurs marginaux et tous ces secteurs occultes et inventifs à la fois, et qui renouvelle le stock et qui donne une couleur générale à la langue qui change perpétuellement et qui enrichissent tous les niveaux d'expression. Parce qu'aujourd'hui, un romancier ne peut pas ignorer les vocabulaires contemporains et il s'en sert très bien. Bon, j'ai plusieurs amis qui écrivent et qui ont une notoriété d'écrivain, mais dont je suis le travail et qui, eux, suivent le travail du dictionnaire. Ça, c'est une chose assez importante aussi. Je ne sais pas quels étaient les rapports d'Émile Littré, malgré toute l'admiration que je lui porte, avec les grands écrivains de son temps. Je crois qu'ils étaient un peu détendus, enfin, ils étaient, ou distendus, qu'il n'y avait pas beaucoup de rapports entre le travail de Littré et quelqu'un qui lui était très proche dans le fondement de sa conception de la langue et qui était Mallarmé, mais il n'y a pas eu d'échange. Alors que là... quelqu'un comme Daniel Pénac, quelqu'un comme Yann Kefelec, Le Clésio, sont des gens que j'ai fréquentés et qui fréquentent les dictionnaires et qui ont réagi à certaines choses, positivement ou négativement, par exemple. Or, je remarque dans les romans assez récents de Yann Kefelec, à qui je ne ferai qu'un seul reproche, c'est qu'il écrit trop, mais ça c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup d'écrivains, et qui est souvent affaire essentiellement aux éditeurs, qui les poussent, après un succès, à renouveler leur production. Mais je suis mal placé pour dire qu'il faut écrire peu, parce que récemment, j'ai un paquet de choses nouvelles qui ont été publiées. Voilà.
On voit à quel point votre ouverture d'esprit a permis, quelquefois même, d'être visionnaire par rapport... Prenons l'exemple de l'informatique. Vous avez toujours considéré la langue comme un réseau et un dictionnaire, justement, comme un réseau.
Oui.
Or, c'est particulièrement adapté à l'hypertexte.
Tout à fait. Mais là, je crois qu'il faut rendre hommage à Paul Robert, parce que ça n'est pas moi qui ai inventé l'idée du dictionnaire analogique. C'est lui. Et c'est très curieux, parce que pour lui, c'était entièrement pédagogique et utilitaire. C'est-à-dire que s'intéressant à un aspect très précis, très technique de l'agriculture, qui était l'agrumiculture, parce qu'il s'y destinait initialement, il avait constaté que même en parlant bien, en écrivant bien et en ayant fait des études supérieures, on ne maîtrisait pas le vocabulaire technique dans un domaine très précis comme celui-là, et qu'on avait besoin d'un instrument de travail, non pas qui décrive ce vocabulaire puisqu'on ne le connaissait pas, mais qui y donne accès à partir des mots qu'on connaissait, c'est-à-dire le mot courant renvoyant aux mots difficiles, aux mots mal maîtrisés, une chose comme ça. Et c'est l'idée de départ qui a fait que son dictionnaire était en même temps la continuation de ce qu'avait fait Émile Littré, mais en même temps était un vocabulaire analogique qui allait du connu à l'inconnu, du mot que tout le monde connaissait et à partir duquel il allait avoir tout un réseau sémantique avec des mots moins bien maîtrisés, des synonymes partiels, des contraires, la partie, le tout, enfin tous ces rapports logiques qui existent. Et ce faisant, et avant qu'il y ait le moindre soupçon d'informatique dans ce domaine, je trouve qu'il avait inventé l'hypertexte, qui après a été considéré comme une grande invention des informaticiens. C'est-à-dire, et en fait, il faut remonter bien plus haut que Paul Robert, parce que si on relit les textes de Diderot pour l'encyclopédie, on s'aperçoit qu'il considère que les renvois systématique d'un élément à un autre dans son dans l'œuvre qu'il était en train de préparer était aussi important que la qualité des articles particuliers, que ce qu'il fallait c'était construire un système, construire un réseau. Et cette idée du réseau, tous les scientifiques l'ont en tête quand ils fabriquent une terminologie, l'exemple le plus éclatant étant Lavoisier, qui, avec ses collaborateurs, qui sont trois grands chimistes aussi, créent en même temps une révolution des connaissances en chimie et une révolution des manières de les exprimer. C'est un vocabulaire entièrement nouveau, non seulement par les mots comme oxygène ou hydrogène, qui sont créés à partir du grec et qui d'ailleurs ne sont plus pertinents dans leur analyse intime, c'est pas ça, mais qui ont été adoptés dans le monde entier et qui fonctionnent dans le monde entier, créé par Lavoisier en français, avec des éléments grecs et aussi avec des suffixes qui ont une valeur, bon, parce que un acide sulfureux et un acide sulfurique, c'est pas la même chose, et le E et le Ic ont un sens précis, oppositif, etc., ce qui permet de désigner tous les corps chimiques d'une manière cohérente et d'une manière systématique. C'est une formidable invention. Quand j'ai fait des livres sur la terminologie, pour moi, le plus grand terminologue de tous les temps, c'est Lavoisier, qui est plutôt connu comme chimiste, mais voilà. Je pense que l'idée du réseau est une idée fondamentale, et les informaticiens le savent, mais les neuropsychiatres aussi, et parce que finalement la langue ne fait qu'exploiter les possibilités des neurones du cerveau qui sont organisés en réseau, c'est de la même manière. Parce qu'on sait très bien que quand on a des ennuis d'expression, par exemple, la perte des mots ou des choses comme ça, ça se passe par chaîne, ça se passe par réseau. On perd les noms propres avant les mots de la langue. Pourquoi ? Parce que les mots de la langue sont insérés dans des systèmes qui sont construits, les synonymes, les contraires, etc. Un mot en appelle un autre, et que ça peut être même des réseaux qui sont tout à fait personnels et qui peuvent être... j'étais à France Culture hier avec Françoise Héritier, qui vient de publier un petit livre qui s'appelle « Le goût des mots », et qui est une fantaisie tout à fait personnelle dans laquelle elle donne des définitions qui ne sont pas des définitions, mais qui sont ce que les mots lui évoquent. Et ça montre qu'un personnage qui, par ailleurs, est un scientifique éminent, c'est une grande anthropologue, peut très bien jouer, non pas avec les mots tels qu'ils nous sont donnés, mais avec les sonorités ou avec les formes graphiques, pour en faire de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'elle montre par là, et c'est ça l'intérêt de son... C'est pas un travail, mais de sa fantaisie, elle dit que c'est une fantaisie. L'intérêt, c'est de montrer que les mots sont des stimulants. Ils sont, sur le plan individuel, des stimulants à l'imaginaire, des stimulants à la connaissance, des stimulants parfois à des sentiments violents. Les injures sont un stimulant de la colère. Je veux dire que si on ne disposait pas de mots affreux, on serait moins colérique.
On serait peut-être plus violent si on n'avait pas les mots.
De même que Stendhal dit dans De l'amour que c'est au moment où on commence à parler d'amour avec les mots de l'amour qu'on devient amoureux.
La cristallisation passe par les mots.
Donc, même chose pour les choses désagréables aussi. Donc, je trouve très, très admirable que le mot soit à la fois un stimulant individuel pour chaque locuteur d'une langue. Et c'est vrai aussi de ceux qui apprennent la langue, parce qu'on a une idée très, très particulière et partielle des mots d'une langue qu'on est en train d'apprendre. Et vous remarquerez que là, il y a deux imaginaires très différents, ceux de l'oralité et ceux qui passent par « le mot peut s'écrire » et il a une forme écrite. Et on ne va pas réfléchir de la même façon dessus. Et justement, dans les populations où il n'y a pas d'écriture, l'imaginaire oral est beaucoup plus vivant, beaucoup plus vif. Parce que chaque progrès, l'écriture est incontestablement un très grand progrès pour l'humanité, se paye par un déficit. Et que si nous avions gardé toute l'imagination orale qu'ont les grands traditionnalistes africains, notre français serait plus vibrant et plus vivant. Mais bien sûr, on ne peut pas tout avoir à la fois. Et les inventions nouvelles peuvent très bien aboutir en même temps à une sorte de déficit. On a le même problème quand on passe du papier imprimé à l'informatique, oui. avec des gains considérables et un danger d'appauvrissement, de tomber dans un système purement utilitaire, question-réponse, le quiz, qui est très, très appauvrissant.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger lié à la vitesse, puisque l'informatique permet très, très simplement d'actualiser le dictionnaire? Est-ce que cette ambition de monter dans le train à grande vitesse, c'est ce que vous dites dans la préface, enfin, dans la lettre manuscrite qui accompagne le boîtier du grand Robert numérique, est-ce que ça n'entraîne pas une course à la dernière mode des mots, etc.? Est-ce que
Il y a ce danger pour les créateurs de dictionnaires de courir après la mode, l'actualité immédiate, en oubliant les hiérarchies, en oubliant les mises en perspective qui sont absolument nécessaires. Mais c'est un danger qui n'est pas trop grave pour quand on part d'un texte comme celui du Grand Robert, et pas seulement du Grand Robert, mais tous les grands dictionnaires équivalents. Je pense à l'Oxford en anglais, qui est un véritable chef-d'œuvre, mais qui a demandé 200 ans de travail, donc c'est autre chose, et des milliers de collaborateurs. Mais là, plus modestement, pour la langue française, la caractéristique du Robert, indépendamment des jugements de valeur positifs ou pas positifs, c'est que c'est le seul dictionnaire de langue conçu pour la langue française qui soit vivant, c'est-à-dire qui soit actualisé en permanence, qui ait des éditions successives. Si on ne peut pas faire économiquement une édition nouvelle sur le papier, eh bien, on l'a fait par l'informatique. Et là, c'est un progrès considérable, parce que s'il n'y avait pas l'informatique, on ne la ferait pas du tout. On ferait ce qu'on faisait au 19e siècle, c'est-à-dire des suppléments. Or, le supplément, c'est vraiment le cautère sur la jambe de bois. C'est épouvantable, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver dans le supplément par rapport au corps de l'ouvrage, et que le supplément, il détruit un peu la structure de l'ouvrage, parce que c'est un corps étranger. Et par exemple, ça a été vrai, j'ai dirigé le supplément du Grand Robert à la fin de la première édition, il n'est pas tout à fait conçu comme le reste de l'ouvrage. Et il y a un exemple éclatant, c'est si vous connaissez le Littré, le supplément du Littré, il a des qualités, certes, mais il ne répond pas du tout aux critères du dictionnaire lui-même. C'est le supplément à un autre dictionnaire qui n'a jamais existé, ce qui arrive toujours un petit peu. Donc, au lieu de supplément, il faut penser redistribution des cartes sur la totalité, et donc éviter complètement les ghettos linguistiques. Vous savez, à un moment, on s'est aperçu que les dictionnaires français étaient très pauvres en matière d'usage du français hors de France, et on a rajouté des chapitres en disant, voilà, le français québécois emploie tel et tel mot dans tel sens, les Belges disent ça, quand on passe la frontière suisse et qu'on est en France, le mot canton et cantonal change totalement de sens, c'est plus du tout la même chose, et tout ça, on expliquait ça, mais dans des espèces de suppléments.
D'appendices,
qui faisaient un espèce de ghetto. Alors, c'est pas ça, la langue française, c'est une unité, même si nous n'avons pas l'occasion tous les jours d'employer les mots que les Québécois emploient tous les jours, nous avons l'occasion de passer l'Atlantique, nous avons l'occasion de recevoir chez nous des touristes québécois qui continuent à parler comme chez eux, et bon sang, il y a de la communication entre toutes les formes de français. Oui. Donc,
on voit bien qu'avec ces 100 000 mots et ces 325 000 citations et renvois à citations, on entre dans un voyage, hein, et dans un voyage de découverte qui est particulièrement passionnant et ouvert, optimiste même, je dirais, parce
qu'on
a l'impression que tout locuteur peut lui-même créer un usage.
Oui, avec des prises de risque, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. Quand on sélectionne les auteurs du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, c'est confortable. C'est confortable parce que l'histoire a fait le tri. Nous savons ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais à l'époque, on ne savait pas. Madame de Sévigné écrivait « Racine passera comme le café ». Ben, la racine n'est pas passée, le café n'est pas passé non plus. Dieu sait que ça marchait très bien. Mais elle était persuadée que c'était un effet de mode. Et ça n'est pas qu'elle n'aimait pas Racine ou qu'elle ne trouvait pas un bon écrivain ou un bon dramaturge. Mais c'est qu'elle estimait qu'il y avait un peu d'excès. C'était aussi un petit clin d'œil pour dire quand même Corneille, c'était pas si mal, alors qu'à son époque, on considérait que Corneille était une vieille barbe sans intérêt, alors que Racine était en plein dans la modernité. Mais tout ceci, c'est une réaction contre les effets du temps, avec évidemment des usures, des choses comme ça. Alors, pour nous, c'est clair, mais il y a des ajustements qui sont même dans un passé relativement lointain. Figurez-vous qu'au XVIIIe siècle, un des plus grands écrivains de cette époque, c'est certainement Laclos, les Liaisons dangereuses. Eh bien, Chauderlot de Laclos n'est pas cité par Littré, qui a pourtant une couverture du XVIIIe siècle qui se voulait à peu près complète. Mais il trouvait que c'était trop immoral. C'est pas qu'il connaissait pas, il connaissait très bien, mais c'était trop immoral. Et dans la même direction, mais en allant beaucoup plus loin dans le tabou, le Robert est le premier dictionnaire français à avoir cité le divin marquis de Sade, qui n'était jamais cité. Et je l'ai cité volontairement, j'avais fait des relevés, d'une part dans les mots techniques de la sexualité, où il est d'une précision admirable, quasiment physiologique, et aussi dans un domaine où on l'attend moins, qui est la religion et la théorie de l'athéisme, dans tous les textes qu'il a écrits, qui sont des textes de réflexion philosophique sur antichrétien. Et là, il y a un contenu de pensée qui vient s'opposer totalement au contenu de pensée qui est largement exprimé par les citations de Bossuet, de Fléchier, de Bourdalou, qui existent aussi. Donc, si vous voulez, par exemple, pour avoir une idée raisonnable des conflits qu'il pouvait y avoir au point de vue intellectuel en France, et Dieu sait qu'ils étaient tellement importants qu'ils préparaient la Révolution française, au XVIIIe siècle, le Robert est un reflet qui n'est pas ridicule. Il n'est naturellement jamais suffisant, mais ça n'est pas ridicule. Et j'ai été particulièrement heureux quand un grand spécialiste de la pédagogie du français a fait dans une revue pédagogique qui était de grande qualité un très, très joli article qui nous a réjouis sur la représentation de l'œuvre de Proust dans le dictionnaire. Et il s'est dit, mais après tout, bon, bien sûr, il faut lire La recherche du temps perdu, mais dans le Robert, on trouve quand même une représentation qui est sensible des points d'accroche principaux, des points d'intérêt de Proust, de sa manière de penser, etc. Bon, il doit y avoir quelque chose comme 2000 citations ou 2500 citations de Proust. En plus, à l'époque, naturellement, on citait La recherche du temps perdu, mais on ne citait pas d'autres textes, puisque le premier roman qui n'était pas publié de Proust a été redécouvert après, c'est Jean Santeuil. Et moi, j'ai été très, très content de trouver dans Jean Santeuil des passages qui sont le brouillon de passages de La recherche. Et pouvoir les citer, par exemple, la description des lilas du côté de chez Swann, ou la description des asperges que la bonne Françoise plumée, entre guillemets, l'employé le verbe plumer, ça existe dans Jean Santeuil, ça existe dans La recherche. On peut choisir une description ou l'autre. Et ça donne une dimension de critique littéraire qui n'est pas affirmée, mais qui est présente. Et pour le lecteur qui est un petit peu initié, c'est visible. Et pour le lecteur qui n'est pas initié, c'est du magnifique français, c'est de la belle description et c'est de l'évocation comme on ne peut pas, évidemment, prétendre faire aussi bien. Donc nous, on se cache derrière les écrivains, en grande partie, nous les humbles lexicographes, et on leur sert la soupe parce qu'ils en ont besoin pour survivre. Vous savez, les écrivains du passé, il y en a qui sont injustement oubliés. J'étais très, très choqué quand je vois, par exemple, le fait que plus personne ne lit Jules Romain ou ne lit Duhamel. Bon, Duhamel a écrit de très mauvaises choses sur la fin de sa vie, enfin très médiocre, mais il a écrit la chronique des Pasquier, qui est un très grand livre. Il a écrit Les récits des temps de guerre, qui est une des évocations les plus fortes et les plus humaines de la guerre de 14. On n'en parle plus. Et les jeunes ne connaissent même pas son existence et les livres de poche ne les rééditent pas. Donc là, il y a une sorte de critique implicite aussi de la réaction de notre communauté présente à ce passé patrimonial qui est en grande partie largué et impossible. Alors tout ceci peut se réactualiser, se réévaluer d'année en année ou de décennie en décennie ou de génération en génération, mais c'est justement ce travail qu'il faut faire sans baisser les bras pour qu'un dictionnaire reste un objet vivant. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, on prend des risques en insérant des auteurs vivants, parce que là-dedans, il y en a qui vont rester, il y en a qui ne vont pas rester, mais on ne sait pas lesquels. Et très souvent, les auteurs qui ne restent pas restent quand même très intéressants comme témoins de leur temps. Et il y a des réévaluations, je parlais tout à l'heure de Sade, mais ça, c'est de la littérature. Et c'est un problème de tabou social, mais il y a des choses beaucoup plus humbles. Par exemple, j'ai trouvé à la lecture, quand j'ai travaillé sur la bande dessinée, que les premiers volumes des Pieds Nickelés, qui sont pas une vraie bande dessinée, il y a des dessins et il y a un texte dessous, mais que ce texte avait des qualités littéraires populaires, mais une certaine virtuosité dans l'utilisation de l'argot de l'époque, et j'ai cité les Pieds Nickelés dans Le Grand Robert, et je vois pas pourquoi on les citerait pas. Il y a aussi, je sais pas, Fantomas, ou les romans populaires sont une source d'abord très très intéressante pour l'évolution du vocabulaire, parce que les auteurs travaillaient pour un public très vivant, très brassé, et donc reflétaient la vie l'oralité très contemporaine.
Et aussi l'oralité est beaucoup plus peut-être
et
que
puis le côté expression orale, oui. Il est certain que le côté oral transcrit par un romancier populaire dans une fiction de ce genre est plus proche de la vraie oralité que l'oralité de Céline, oui. Qui est complètement reconstruite pour des raisons stylistiques, oui. Et qui, mais Céline, rassurez-vous, est citée aussi.
Alors, on pourrait effectivement continuer longtemps à vous écouter, Monsieur Allaret. On finit par se demander pourquoi le Robert ne s'appelle pas le Ray, hein, d'autant plus que ça voudrait dire le roi, et le roi des dictionnaires.
Non, mais Robert est un prénom, c'est un nom neutre.
Cette modestie et toute la science qu'il y a, et depuis longtemps. Enfin, moi, j'ai été nourrie, par exemple, à votre magistrale étude, théorie du signe et du sens, en 1976.
Oui, mais ça, c'est... Voilà,
qui a été un outil de travail professionnel pour moi.
J'en suis ravi. C'est une anthologie, il faut le dire. C'est-à-dire que
le premier tome est une anthologie, mais le second est beaucoup plus...
Il y a beaucoup de commentaires personnels,
voilà,
mais ça s'appuie sur des textes.
En particulier personnel, de manière déjà décoiffante, je me permets ce petit clin d'œil, parce que vous ne faites pas de conclusion à ce volume, mais la fin s'appelle « Au résumé », comme on dirait, « Aux armes citoyens », presque. Oui. C'est un cri, et c'est un cri très personnel, parce que voilà, vous essayez de reparcourir ces deux tomes en disant « Sommairement vu d'ici, par un observateur incertain, en proie aux contradictions de l'anticapitaliste nourri par le capital, du semi-marxiste embourgeoisé, de l'analysé névrotique, de l'élitiste honteux, etc. etc. » Ça a pu se passer ainsi. Ben voilà, il y a déjà le ton Alain Ray dès cette époque, et je pense que vous ne vous en êtes jamais départi.
Voilà, merci infiniment. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil et de votre écoute.